VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
13h à Dakar, 14h à Kinshasa. Bienvenue à notre journal. En Libye, les forces du gouvernement d'Union nationale GNA progressent aujourd'hui dans la ville de Sirte, où elles attaquent les dernières poches de résistance des militants du groupe État islamique. Les djihadistes sont désormais acculés dans un secteur de moins de 2 km² dans cette ville qui était devenue leur bastion en Libye. C'est ce qu'affirment ce lundi les forces du GNA. Un millier de soldats les encerclent après avoir lancé dimanche l'ultime bataille pour reconquérir totalement Sirte, située sur la côte méditerranéenne à environ 450 km à l'est de la capitale Tripoli. En Tunisie voisine, le nouveau gouvernement d'Union nationale prend ses fonctions après une cérémonie de passation de pouvoir entre l'ex-premier ministre Habib Bessid et son successeur Youssef Chahed. Cette nouvelle équipe gouvernementale fera face à plusieurs défis majeurs, nous dit le journaliste Noureddine Bouta.
Le premier, c'est le défi du terrorisme, puisque la Tunisie a été sujet de plusieurs attaques depuis quelques années. Et puis, il y a le défi économique, et puis il y a les mouvements sociaux qui sont en train d'influencer négativement les activités économiques, telles que le pétrole et le phosphate. Sur le plan populaire, les gens, ils attendent un signe du gouvernement, notamment la relance économique, la lutte contre la corruption, qui commence à faire beaucoup de bruit en Tunisie, puisque avant la révolution, c'était l'œuvre de la famille du président. Et là, actuellement, ça s'est un peu popularisé. Il y a la corruption partout.
Noureddine Bouta, directeur de la radio privée Mosaïque FM à Tunis. Au Nigeria, le gouvernement formule de nouvelles propositions pour des pourparlers éventuels sur les otages de Chibok, les écolières kidnappées par le groupe islamiste Boko Haram. Le point avec Chérubin Dorsil.
Dans une déclaration à la presse hier dimanche, le président Muhammadu Buhari s'est dit prêt à laisser Boko Haram choisir un organisme sans but lucratif comme intermédiaire dans toutes les discussions sur la libération d'environ 200 écolières enlevées en 2014 dans le nord-est du Nigeria. Monsieur Buhari avait déjà fait une offre de négociation sur le dossier l'an dernier, mais le groupe extrémiste n'a pas fait de commentaire sur la proposition. L'échec du Nigeria dans la recherche des filles de Chibok a provoqué un tollé au pays et à l'étranger. Souvenez-vous, les critiques du prédécesseur de Buhari, Goodluck Jonathan, avaient déclaré que son gouvernement était trop lent à agir. S'ils ne veulent pas nous parler directement, qu'ils choisissent une ONG reconnue internationalement, a dit le président Buhari en marge d'une conférence au Kenya. Selon le dirigeant nigérian, des négociations pourraient commencer sur un échange de prisonniers si Boko Haram pouvait fournir des preuves à l'ONG que les filles sont toujours sous son contrôle. Des négociations avec Boko Haram seraient les premiers entretiens connus du public entre le gouvernement et les salafistes, dont 7 ans d'insurrection pour créer un État islamique dans le nord du Nigeria ont entraîné la mort d'au moins 15 000 personnes.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Au Gabon, attente et inquiétude ce lundi à la veille de l'annonce demain des résultats officiels de la présidentielle à un tour de samedi par le ministre de l'Intérieur, Pacome Mobele Boubeya. L'opposant Jean Ping s'est déjà proclamé élu face au chef de l'État sortant Ali Bongo Ondimba, dont le camp assure qu'il a gagné le scrutin. Après 2 jours pendant lesquels les habitants de Libreville sont restés cloîtrés chez eux, la capitale a retrouvé aujourd'hui une activité à peu près normale, selon l'AFP, même si certains commerces restaient fermés. Aucun dispositif particulier des forces de sécurité n'était visible dans la ville. Le point avec l'envoyé spécial de VOA Afrique sur place, Idriss Fall.
C'est une guerre de communiqués qui se poursuit hier dimanche devant un parterre de militants. L'opposant Jean Ping a clamé sa victoire sans pour autant s'autoproclamer président du Gabon.
À tous ceux qui ont fait un choix autre que celui de ma personne, je voudrais les rassurer qu'il n'y aura aucune chasse aux sorcières. Je serai le président de tous les Gabonais. C'est dans l'unité et la concorde que nous célébrerons cette belle victoire.
Pour se faire l'écho, ces militants enflammés ont entonné en chœur Jean Ping, président. Quelques heures après, le PDG au pouvoir a rassemblé ses militants à quelques encablures de la résidence de M. Ping. Le président sortant, Ali Bongo, a eu un discours plutôt modéré, appelant au calme, assurant toute sa confiance en attendant les résultats. Les militants du PDG sont aussi certains de la victoire de leur candidat.
Bien sûr et certain, il va gagner. Ali Bongo, c'est celui qui a le meilleur projet de société. Il a parlé de l'avenir en confiance, alors donc on lui fait confiance.
Les résultats sont attendus au plus tard 72 heures après le scrutin, c'est-à-dire aujourd'hui ou demain mardi. En attendant, sur le déroulement du scrutin, Falilou Diallo, président du groupe des observateurs africains qui représente les ONG de 12 pays du continent.
Un vote calme qui s'est bien déroulé, une participation massive. C'est une belle fête pour la démocratie.
Et vous pensez que les résultats, il y a des risques de contestation ou pas?
Bon, nous sommes en Afrique, hein. Nos démocraties sont très jeunes, sont très fragiles. Donc il y a toujours les perdants qui contestent. Mais faisons confiance à nos institutions où nous pouvons recourir pour contester les résultats. Il n'y a pas d'élection sans contestation de résultats. C'est la marche pour notre démocratie fragile.
Pour parer au pire, l'Union africaine a dépêché sur place une forte délégation des anciens, dont Sylvestre Ntibantou Gagnant, ancien président du Burundi.
Pour un pays qui a su, pendant toutes ces décennies, sauvegarder la paix et la sécurité, et notre souhait est que les différents protagonistes prennent cette expérience comme venant pour consolider ses acquis.
Est-ce que vous pensez que vous serez entendu?
Nous le souhaitons et nous croyons que tous les acteurs politiques sont d'éminentes personnalités et qui donc ne peuvent pas être insensibles à des préoccupations de ce genre.
Depuis Libreville, Idriss Fall, La Voix de l'Amérique.
En RDC, la feuille de route du dialogue politique congolais est maintenant prête avec la fin des travaux préparatoires de ce week-end à Kinshasa. Les délégués du pouvoir, de l'opposition comme de la société civile ont trouvé des points d'accord lors de ce forum qui reste toutefois boycotté par une frange importante des opposants réunis au sein du rassemblement. La plateforme politique que dirige Étienne Tshisekedi, leader de l'UDPS. Plus de détails avec Gino Réema de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
C'est parti pour un dialogue de 2 semaines, décidé par les différentes parties déléguées au comité préparatoire. La date du 1er septembre a été proposée pour le début de travaux du dialogue. Un dialogue qui risque de s'éteindre sans la plus grande plateforme de l'opposition, le rassemblement qui pose encore des conditions. Des conditions qui ont été rappelées même par des opposants qui ont pris part aux travaux du comité préparatoire. Les députés Jean-Lucien Boussa et le chef des délégations de l'opposition dans le comité préparatoire.
Libération effective des prisonniers politiques. L'abandon des poursuites à caractère politique. La réouverture effective de toutes les chaînes de télé et radio fermées. La restitution des biens confisqués.
Et au niveau de la facilitation, on promet de travailler sur les préalables du rassemblement. À la majorité présidentielle, on se félicite du déroulement des travaux du comité préparatoire avec l'espoir d'avoir un dialogue qui va dans l'intérêt de tous. Le professeur Néhémie Mouilania est le directeur de cabinet du chef de l'État.
L'espoir que nous formulons, c'est qu'au 1er septembre, la famille soit rassemblée au grand complet.
Le dialogue va s'éteindre dans le respect de la résolution 2277 de Nations Unies. Kinshasa, Gino Réema de Top Congo pour VOA Afrique.
Guerre en Syrie maintenant, les affrontements entre la Turquie et les forces arabo-kurdes soutenues par les États-Unis en Syrie sont inacceptables. C'est ce qu'a affirmé ce lundi l'émissaire présidentiel américain auprès de la coalition internationale anti-djihadiste, Brett McGurk, appelant toutes les parties à cesser les combats. Mais le président turc Recep Tayyip Erdogan a souligné hier sa détermination de frapper à la fois le groupe État islamique et les rebelles kurdes qui combattent tous deux le régime du président syrien Bachar al-Assad. Jean-Rocher Bion.
VOA Afrique en direct de Washington.
Les bombardements de l'armée turque ont fait des dizaines de morts dimanche dans le nord de la Syrie, le même jour où le président Erdogan a promis de lutter avec la même détermination contre les djihadistes et les forces kurdes. Le dirigeant turc s'engage à tout faire pour que la frontière soit protégée. Il a fait cette déclaration 5 jours après le début d'une offensive de l'armée contre le PKK ou Parti des travailleurs du Kurdistan et le Parti de l'Union démocratique, principale formation politique kurde en Syrie. Une 50aine de chars et des centaines de soldats turcs sont entrés en Syrie depuis mercredi dans le cadre de l'opération bouclier de l'Euphrate. Également pris pour cible, le groupe État islamique, M. Erdogan, a décidé de chasser loin de ses terres. En déplacement à Gaziantep dans le sud-est de la Turquie, une semaine après un attentat portant la marque de Daesh qui a fait 55 morts pendant un mariage kurde, il a lancé à la foule « Nous n'accepterons aucune activité terroriste à ou près de nos frontières ».
Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.